Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
8h26, merci d'écouter RTL. On l'a peu remarqué, il y a quelques semaines, l'affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Haut-Karabagh a été marqué par l'utilisation massive de nouvelles technologies. L'occasion pour notre brigade de l'actualité de s'intéresser au futur de l'armée, les conflits de demain et le matériel mis au point pour nos soldats dans les années à venir, voire les décennies. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
La première chose à laquelle on pense quand on dit arme du futur, c'est bien évidemment le drone.
Oui, c'est le robot le plus connu, cet avion sans pilote avec lequel les armées peuvent frapper un peu partout. La France en possède aujourd'hui 9, bientôt 12. Certains sont d'ailleurs déjà déployés au Sahel. Eh bien, ce qui existe dans les airs existera bientôt sous l'eau. La France vient de se doter, c'est pas le seul pays d'ailleurs, d'un système de drones sous-marins transportés, gérés par un petit bateau qui reste en surface lui-même sans pilote. Et tout ce système sera commandé aussi à distance.
Brice, il y a aussi ce qu'on appelle le soldat augmenté. Les armées du monde entier travaille là-dessus. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors l'idée c'est d'améliorer les performances du soldat grâce à la technologie. Aujourd'hui cela existe, il y a certaines lunettes électroniques qui permettent d'améliorer la vision, d'autres outils d'améliorer la précision. Mais il y a aussi des recherches sur ce que l'on appelle les exosquelettes. C'est une sorte d'armure, de combinaison si vous voulez, un peu sur le modèle d'Iron Man. Et ça augmente les capacités du militaire, courir plus vite, porter des charges plus lourdes, tirer beaucoup plus précisément même avec un seul bras. Mais pour l'instant ce ne sont là que des essais de prototype.
Il y aurait également une autre évolution possible, celle-là un peu plus effrayante. Hein.
Oui, il y a une réflexion sur comment améliorer les caractéristiques physiques des soldats avec par exemple l'administration de substances pour résister à la fatigue, la faim, le stress, ou même avec des puces électroniques implantées sous la peau, ou même des modifications génétiques. Alors la France a créé un comité d'éthique qui a émis des réserves sur ce sujet il y a quelques jours pour ne pas que dans le futur les soldats deviennent des cobayes. La ministre des Armées, Florence Parly, a résumé ainsi la situation. Oui à l'armure d'Iron Man, mais non dans le futur à la modification génétique de Spider-Man.
Brice, des travaux encore plus improbables ont été lancés.
Oui, les armées françaises viennent de créer la Red Team, ça c'est l'équipe rouge donc en français. En fait, c'est une équipe d'auteurs de science-fiction qui a été recrutée et les militaires leur ont demandé d'imaginer pour eux ce que pourraient être les menaces dans 20, 30, 40 ou 50 ans.
Merci beaucoup Brice Dugénie pour ces explications. Bonjour Amélie Ferret.
Bonjour.
Vous êtes doctorante et chercheure au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, le CERI. Votre dernier livre, Assassinat au pluriel ciblé, hein, critique du libéralisme armé, paru aux éditions du CNRS. Nous avions envie de discuter avec vous ce matin, et notamment sur les assassinats commandités par des États. Le dernier en date, fin novembre, en Iran, où un éminent scientifique chargé du nucléaire a été tué. Pardonnez ma naïveté, mais cela reste fréquent en 2020, les règlements de compte sur demande politique.
Je ne sais pas si on peut les qualifier de règlements de compte, parce qu'en fait la conception de ces opérations, c'est d'abord une conception sécuritaire. Mais en tout cas, ça fait partie des opérations qui sont menées par Israël assez fréquemment, effectivement, notamment envers les scientifiques qui travaillent sur le nucléaire iranien, qui ont été visés depuis une dizaine d'années avec une fréquence importante.
De façon plus large, qui sont les cibles de ce genre d'attaque ?
Donc en fait, les cibles, ce sont les personnes qui sont considérées comme étant des menaces pour la sécurité d'Israël. Soit ce sont des opérations qui sont plutôt préventives, avec par exemple une opération qui a eu lieu en 2016 contre Mohamed Zouhari, qui était un des ingénieurs qui travaillait pour le Hezbollah et qui créait des drones, justement. Donc ça, c'est plutôt préventif pour enlever en fait des capacités à une opération, à une organisation armée.
Oui.
Mais il y a aussi des opérations qui sont punitives et qui ont un but dissuasif contre des gens qui ont commis des attentats contre Israël.
Bon, des personnes qui représentent une menace ou qui ont déjà été eux-mêmes des activistes dans des opérations.
Exactement.
Quelles méthodes sont utilisées ?
Alors, il y a différentes méthodes. En fait, vous avez donc soit des commandos à moto, comme ça a été le cas pour justement le numéro 2 d'Al-Qaïda récemment en Iran, soit ce qui s'appelle des sticky bombs. Donc, c'est des bombes que vous collez à une voiture, par exemple, et qui ont l'avantage, si je puis dire, d'être d'avoir une charge qui est peu importante et donc de ne pas créer de dommages collatéraux très très forts. Vous avez également des téléphones piégés. Comme ça a été le cas par exemple avec Ayash en 96, qui était un dirigeant palestinien. Et vous avez évidemment l'utilisation de bombes, de missiles via des drones ou des hélicoptères, notamment dans le cas des interventions qui sont liées à Gaza ou à la Cisjordanie.
L'utilisation de poison, ça reste encore un classique ?
Alors en fait, ça dépend, chaque service a ses préférences. Et le poison, donc, c'est assez utilisé par le guérou en Russie, mais Israël l'a utilisé assez peu, avec un échec important qui est l'empoisonnement de Khaled Meshal en 97, donc en Jordanie, qui était un dirigeant du Hamas,
oui.
Et qui a été empoisonné par Israël avec un spray dans son oreille. Et en fait, il y a eu une pression telle de la part des autorités jordaniennes pour que Israël délivre l'antidote, qu'il a été sauvé et qu'il habite aujourd'hui à Doha.
Alors, vous citez beaucoup Israël depuis le début de notre entretien. D'autres pays ont ces pratiques ?
Oui. Alors, en fait, donc Israël a assumé, et c'est sa spécificité, oui, par rapport à d'autres services,
Israël ose le dire,
d'avoir ces opérations. Oui. Voilà. Mais les États-Unis, par exemple, alors qu'au départ ils condamnaient ces pratiques, utilisent en fait des assassinats ciblés, ce qui s'appelle des targeted killing, via des drones, par exemple, au Yémen, au Pakistan. L'opération contre Oussama Ben Laden peut être comprise dans ce cadre.
Est-ce que les méthodes évoluent, et est-ce qu'on évoquait il y a quelques instants la modernité, ou en tout cas le futur des opérations militaires, j'allais vous dire classiques, mais là aussi, est-ce que les méthodes évoluent au sein même de ces assassinats politiques ?
Oui, alors en fait, ce n'est pas forcément des assassinats politiques, parce que vous avez certains assassinats qui ont lieu dans le cadre de conflits, par exemple ce que fait France au Sahel,
oui,
et qui sont des actes de guerre. Mais les méthodes évoluent parce que les armées sont de plus en plus réticentes à risquer en fait la vie de leurs agents, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient des agents secrets. Et donc, ils vont avoir plus tendance à recourir à une technologie, comme par exemple le drone, qui permet en fait d'avoir une efficacité sans risquer la vie de ses propres soldats.
Et oui.
Cependant, ce type de technologie, ça a un effet pervers qui est la création de ce qu'on appelle des dommages collatéraux, puisque c'est moins précis que du poison, par exemple.
J'ai bien compris, en tout cas, qu'on pouvait aussi utiliser des prestataires de services, si vous m'autorisez ce terme. Merci beaucoup, Amélie Fréret, pour ces informations. Doctorante, chercheuse aux séries et auteure du livre « Assassinat ciblé, critique du libéralisme armé » paru aux éditions du CNRS. Merci à Jonathan Griveaux, qui est à vos côtés.